l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Séoul au jour le jour. Ce samedi, on célèbre la fête du travail. Est-ce un jour férié en Corée du Sud? Découvrons ensemble qui peut profiter de ce jour de repos. La fête du travail a été créée afin de commémorer la grève générale qui a eu lieu aux États-Unis en 1886 dans le but de revendiquer la journée de 8 heures de travail. En 1963, la Corée du Sud a fixé comme journée des travailleurs le 10 mars, le jour de la fondation de la Ligue du Travail Indépendante de Corée, association qui précédait la Confédération Coréenne des Syndicats. Mais depuis 1994, le gouvernement a changé la date pour le 1er mai de manière à la fêter à l'échelle mondiale. La fête du travail est un jour chômé, payé en vertu de la loi sur les normes du travail. Pourtant, les fonctionnaires doivent continuer à travailler comme d'ordinaire, car ils ne sont pas considérés comme des travailleurs. Alors, les employés de mairie, les policiers, les pompiers et les enseignants des établissements scolaires ne peuvent pas bénéficier de ce congé. Idem pour les employés de la poste. Toutefois, il arrive que certains établissements publics offrent un congé spécial à leurs fonctionnaires. Qu'en est-il des hôpitaux ? Eh bien, les centres hospitaliers universitaires et les polycliniques restent ouverts pour recevoir des clients, même s'ils sont des établissements privés, car ils revêtent un caractère public. Les médecins particuliers et les pharmaciens, quant à eux, peuvent décider eux-mêmes s'ils prennent un congé ou pas. Les employés spéciaux, qui ne sont pas concernés par la loi sur les normes du travail, comme les livreurs de colis, ne peuvent pas profiter du repos. En revanche, les instituts financiers privés, comme les banques et les compagnies d'assurance, baissent leur rideau le 1er mai. Les ouvriers sont nombreux à poser la question sur le critère de fermeture du lieu du travail. En effet, les entreprises ont le droit d'imposer leurs employés de travailler pendant la fête du travail, mais à condition de verser une rémunération qui correspond au travail des jours fériés ou d'accorder un jour de congé supplémentaire. Dans le cas contraire, l'employeur est passible d'une peine d'emprisonnement de moins de 3 ans ou d'une amende allant jusqu'à 30 millions de won, soit 22 400 euros. Les travailleurs à temps partiel peuvent également profiter de la majoration du salaire. Cette année, la fête du travail tombe un samedi, alors bon nombre de salariés souhaitent savoir si le lundi 3 mai ne sera pas un jour férié à la place. Mais malheureusement, même si la journée des travailleurs tombe un jour de week-end, cela ne donne pas droit à une récupération du jour férié perdu. C'est seulement pour les fêtes traditionnelles comme Solnal et Chuseok et la journée des enfants qu'un jour de congé supplémentaire est accordé. L'épidémie de coronavirus a frappé de plein fouet les agriculteurs en Corée du Sud. Alors que le gouvernement a interdit de facto l'entrée des ouvriers étrangers dans le pays depuis l'an dernier dans le cadre des mesures sanitaires, ils souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre inédite. De plus, cette année, à cause des réglementations de la distanciation sociale renforcée, il y a beaucoup moins de bénévoles qui viennent donner un coup de main. Les agriculteurs qui cultivent l'ail sur l'île de Jeju ont beaucoup de soucis à l'approche de la récolte qui commence dans 2 semaines. Lee, 65 ans, a entendu dire que ceux-ci, ayant fait des récoltes un peu tardives par rapport à leurs voisins, ne pouvaient pas recruter des travailleurs même s'ils proposaient de les payer 60% de plus que le salaire normal. En 2020, il était encore possible d'employer des ouvriers étrangers qui sont restés en Corée du Sud. Mais cette année, la situation est devenue pire. Dans ce contexte, de plus en plus d'agriculteurs arrêtent même l'exploitation. D'après les autorités locales, la surface agricole de l'ail sur l'île méridionale cette année a chuté de 40% en glissement annuel avec 1300 hectares. Les ailes de Jeju qui grandissent dans le vent de la mer sont fortement dépendants du travail des hommes. Leur culture est peu automatisée et tout le processus allant du semis jusqu'à la récolte est réalisé avec le travail manuel. Le manque de personnel est un phénomène qui s'observe sur tout le territoire. Les régions agricoles avaient toujours ce problème à cause du vieillissement de la population. Mais cette année, les agriculteurs sont confrontés à une limite face à la prolongation de l'épidémie virale. Les collectivités locales essaient de mobiliser les travailleurs, mais leurs efforts n'ont pas l'air de porter leurs fruits. La province de Chungcheong du Sud tente d'employer quelques 600 travailleurs étrangers qui voient le départ vers leur pays retardé sur fond de coronavirus. Le Gyeongsang du Nord, de son côté, a lancé une campagne d'aide aide aux agriculteurs en faisant appel aux associations composées de personnes de leur région et aux associations étudiantes des universités locales. Cela en plus de la demande du soutien à l'armée. La province de Jeolla du Nord et celle de Gyeongsang du Sud ont établi cette année un budget destiné à la main-d'œuvre agricole. Le fonds sera utilisé pour le transport, le logement et l'assurance accident des travailleurs. Le ministère de la Culture vient de mettre en place un projet visant à promouvoir l'industrie du hanji, le papier traditionnel coréen, en collaboration avec la Fondation de l'artisanat et du design de Corée. L'initiative se concentre sur la création de la demande à travers l'utilisation de produits fabriqués en hanji dans les établissements publics. Tout d'abord, le ministère prévoit de distribuer 20 000 feuilles de certificats de mérite en hanji dans les services gouvernementaux, les organismes publics et les établissements scolaires. Ensuite, un projet de décoration d'intérieur est attendu. Il consiste à utiliser les papiers peints, les papiers de revêtement de sol ainsi que les objets de décoration fabriqués à partir du hanji. Cette année, le ministère va sélectionner 10 installations culturelles nationales ou publiques pour mener ce projet à titre pilote. Les enfants pourront également se familiariser avec ce papier fabriqué à partir de l'écorce du mûrier. Les enseignants de l'art donneront des cours aux écoliers avec des kits de hanji. Deux universités sélectionnées pour le projet d'essai, quant à elles, offriront aux étudiants en architecture d'intérieur, calligraphie, peinture et artisanat, une formation sur la fabrication du hanji et ses potentiels comme support. Dans la foulée, le ministère tente de promouvoir l'utilisation innovante et créative du hanji à travers la collaboration avec les contenus liés à la Hallyu, la vague culturelle coréenne. Afin de soutenir les artisans qui vivotent, des études seront menées à partir de cette année pour préparer l'inscription du hanji sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Les autorités fourniront également une aide financière à chaque atelier pour la formation de maximum 3 successeurs. Enfin, les administrations territoriales organiseront des festivals, des expositions et des programmes d'éducation relatifs au papier coréen pour faire connaître ses valeurs à la population.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Eh oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société Séoul au jour le jour en compagnie de Franck Altani ce jeudi 29 avril. Le ministère de la Culture a déclaré 2021 l'année du livre pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Depuis 2018, il initie chaque année un projet de promotion de la lecture pour certaines catégories de la population. Selon une étude de 2019, le taux de lecture des plus de 60 ans n'était que de 32% contre 48% en 2017. Il s'agit du niveau le plus bas parmi toutes les tranches d'âge. Près de 49% des sondés de cet âge estimaient qu'ils ne lisent pas assez. D'après un responsable du ministère, la lecture permettra de donner un nouveau souffle aux seniors qui se sentent exclus et déprimés avec la prolongation du Covid-19 qui entraîne la réduction des échanges sociaux. Le projet vise à renforcer leur accès à la lecture et à faciliter la communication entre générations. Découvrons les programmes. Tout d'abord, les personnes âgées qui ont du mal à lire pour des raisons physiques ou environnementales peuvent écouter la lecture à haute voix par téléphone. Ensuite, un concours de critique de livres sera organisé. Afin d'y participer, il suffit d'écrire ses impressions après la lecture en plus de 60 caractères. Il existe également des événements consistant à recommander le livre de ma vie. Les responsables comptent visiter des centres de personnes âgées et des hôpitaux de convalescence pour demander aux lecteurs à cheveux gris le bouquin le plus mémorable de leur vie. Par ailleurs, un atelier aidera les seniors à écrire des histoires sous la direction de vrais auteurs. Enfin, sur le site officiel sera publiée la liste des livres à lire sur des thèmes différents tels que la réflexion sur le vieillissement, les bouquins à partager avec les petits-enfants, ainsi que comment vivre jeune. Le service forestier de Corée prévoit de déboiser les vieilles forêts et planter d'ici 2050 3 milliards de nouveaux arbres pour atteindre la neutralité carbone. Ce projet est vivement dénoncé par les associations écologistes qui critiquent que le gouvernement ne voit pas la fonction écologique des forêts. Pourquoi le service forestier a-t-il pris une telle décision? La capacité d'absorption des gaz à effet de serre des réserves vertes de Corée du Sud a atteint un plafond en 2008 avec 61,5 millions de tonnes. Depuis, le chiffre a diminué de 26% en 10 ans. Pourtant, pendant la même période, la surface de forêts et de montagnes n'a reculé que de 1,1%. Le service gouvernemental a trouvé la raison de ce phénomène dans le vieillissement des végétaux. D'après une étude de l'Institut national des sciences forestières, le pin blanc de Corée, planté massivement dans le pays dans les années 70 et 80, a la capacité d'absorption la plus élevée à 20 ans avec 11,8 tonnes pour un hectare. Avec le temps, le chiffre diminue petit à petit pour chuter de moitié à 70 ans. Le même phénomène est observé chez les chênes. En Corée du Sud, les arbres de plus de 30 ans représentent 72% des surfaces vertes et c'est pourquoi le service forestier a lancé cette initiative. Pourtant, cette étude a des limites en ce qu'elle mesure seulement la capacité des arbres principaux. Or, une forêt de pins blancs abrite d'autres sortes de végétaux, mais la recherche n'a pas compté la quantité de carbone absorbée et stockée par d'autres espèces d'arbres ni par le sol. Le monde des sciences forestiers a longtemps cru que les forêts vieilles de 150 ans absorbent et émettent la même quantité de CO2. Mais de plus en plus d'études donnent à tort cette croyance. Une recherche de 2014 réalisée par des scientifiques de 16 pays met en évidence que la plupart des arbres absorbent toujours la même quantité de gaz à effet de serre malgré leur vieillissement. Selon Hong Seok Hwan, professeur en architecture du paysage à l'université de Busan, ce qui est important lors du déboisement, c'est de récupérer tous les arbres qui ont été coupés et de les transformer en produits ou de les utiliser comme bioénergie pour contrebalancer l'émission de carbone entraînée par la déforestation. Mais en réalité, c'est seulement 30% des bois qui sont utilisés et le reste est abandonné dans la nature. Malgré tout, le service forestier n'a pas l'intention de modifier son plan, car la Corée du Sud s'est fixée pour objectif de faire absorber 22,1 millions de tonnes de CO2 par ses réserves vertes d'ici 2030, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Le service forestier prévoit d'augmenter la contribution des forêts à la réduction des émissions à 34 millions de tonnes d'ici 2050. Les martres à gorge jaune, une espèce de la famille des mustélidés, dont le spécimen le plus connu est la belette, apparaissent de plus en plus dans les grandes villes. Vendredi dernier, une martre a été filmée au pied de la montagne Bulamsan, près de l'université féminine de Séoul. Selon un expert, elle a l'air d'un enfant qui a quitté sa mère pour chercher un nouvel habitat. Le 14 avril dernier, un citoyen qui se baladait sur le quai du fleuve Nakdong, à Daegu, en a retrouvé une. L'année dernière, plusieurs ont été observées en même temps à Gumi, dans la province de Gyeongsang du Nord, et à Ulsan. Dans les années 90, on les trouvait seulement dans les montagnes profondes. Mais pourquoi les martres viennent-elles dans les grandes villes? Eh bien, selon les experts, le déplacement de ces animaux menacés de disparition serait dû au rétablissement de l'écosystème. Mais il est difficile de savoir les raisons précises, car la première étude sur les martres n'a été réalisée qu'en 2019. Le professeur responsable de cette étude, Jo Yang-sok, explique que la moindre intervention humaine dans leur habitat y aurait joué un rôle. D'après lui, alors qu'il s'agit d'une espèce extrêmement prudente, elle peut coexister avec les hommes dans les centres-villes à condition qu'elle ait suffisamment d'endroits pour éviter de croiser les humains. La thèse de Jo révèle qu'elle peut vivre dans les lieux où les habitants sont hautement concentré. La martre à gorge jaune est un animal omnivore, prédateur. Il aime les fruits sucrés comme le kaki et la cerise. Aujourd'hui, en l'absence de grands fauves dans la nature, il représente le super prédateur qui se trouve au sommet de la chaîne alimentaire alors qu'un mâle adulte ne pèse que 3 kilos. Leurs proies principales sont les écureuils roux avec 20%, suivis par les cerfs d'eau et les chevreuils avec 16%. Viennent ensuite les bébés sangliers, les rats et les écureuils volants avec 13%. Les martres sont une espèce sociale qui chasse en groupe, mais comme elles évitent les humains à tout prix, elles ne représentent pas un danger pour nous. Ces petits prédateurs pourront-ils contribuer à faire diminuer la population des cerfs d'eau et des sangliers qui posent problème à cause de leur surpopulation? Eh bien, à en croire l'université, un groupe de 3 martres chasserait 9 cerfs d'eau ou bébés sangliers chaque année, ce qui n'a pas de grande influence sur leur population. Par contre, comme elles adorent le miel, elles pourraient réduire les dégâts liés aux guêpes en les mangeant. Par ailleurs, les loutres, qui font également partie de la famille des mustélidés, reviennent elles aussi dans les villes. Rien qu'à Séoul, elles ont été observées à plusieurs endroits près du fleuve Han. Ce qui est intéressant, c'est que l'aménagement de la ville favorise l'augmentation de leur population. À Busan, leur nombre s'est de nouveau accru après l'achèvement de la construction du nouveau port.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, très heureux de vous retrouver pour Bon Plan de sortie, votre émission du jeudi qui vous fait découvrir les événements les plus captivants du pays du matin clair, le tout en 5 minutes chrono. Au programme cette semaine, nous reviendrons sur le festival de musique de chambre Seoul Spring qui propose un concert dans un lieu atypique de la capitale. Nous assisterons à une exposition sur le thème du destin et des arts divinatoires et nous nous extasierons devant la voix puissante de la célèbre soprano sud-coréenne Jo Soo-mi. Et pour commencer, enfilons nos masques pour une séance de théâtre musical traditionnel. Bon plan de sortie, c'est parti! Un spectacle de la danse théâtrale masquée traditionnelle coréenne, le Talchum, sera présenté du 29 avril au 1er mai au Séoul Namsan Gugakdang, une salle de spectacle située dans le village de Hanok au pied du mont Namsan, dans la capitale sud-coréenne. Le titre de ce spectacle est Yolha Ilgi. Il s'agit du compte-rendu d'un voyage effectué en 1780 par le philosophe et écrivain de la dynastie Joseon Park Ji-won, connu aussi sous son nom de plume Yon Am. La troupe de Talchum The Greatest Mask s'est librement inspirée de ce récit pour monter un spectacle qui représente un voyage de danseurs de Talchum. Fondée en 2006, la troupe The Greatest Mask est composée de 3 danseurs formés au Bongsan Talchum, au Hawae Byeolsingut Talnuri et au Gosang Ogwangde qui constituent des biens culturels immatériels importants de Corée du Sud. La chanteuse soprano Jo Soo-mi donnera des concerts les 4 et 5 mai, respectivement à l'Opéra House de Daegu et au Namhan Sansang Art Hall à Gwangju, dans la province de Gyeonggi. Lors de ses concerts intitulés Mother Dear, la diva sera accompagnée par l'acteur de comédie musicale Yoon Young-sok et par l'orchestre philharmonique Prime. Ils interpréteront ensemble ou séparément un répertoire varié allant des airs d'opéra célèbres aux chansons populaires, en passant par les thèmes de cinéma. Au programme figure notamment la chanson folklorique polonaise Mother Dear, Ama Tua Madre, extrait de l'opéra Lucrezia Borgia de Dino Zetti, ou encore Your Love, composé par Ennio Morricone pour le film Il était une fois dans l'Ouest. Né en 1962, Jo Soo-mi a étudié le chant à l'Université nationale de Séoul, puis à l'Accademia di Santa Cecilia de Rome. Elle a fait ses débuts au Teatro Verdi de Trieste en 1986 dans le rôle de Gilda de Rigoletto. Admirée pour sa voix chaleureuse et expressive, elle a incarné de nombreux grands rôles d'opéra comme La Reine de la Nuit dans La Flûte Enchantée de Mozart ou Lucia dans Lucia di Lammermoor de Donizetti. Le musée d'art Il-min, situé dans l'arrondissement de Jongno à Séoul, présente du 16 avril au 11 juillet une exposition intitulée Fortune Telling. Organisée dans un contexte d'incertitude et d'inquiétude pour l'avenir lié à la propagation du Covid-19, cette exposition invite le public à s'interroger sur la signification du destin et à réfléchir sur soi-même à travers diverses méthodes de divination. L'exposition se tient dans 2 salles. La première est baptisée Destin et la deuxième, salon de divination. Sous des formes diverses, peintures, sculptures ou installations, au total 17 artistes ou groupes d'artistes contemporains sud-coréens exposent leurs œuvres qui s'inspirent du thème du destin ainsi que des pratiques de divination occidentale et orientale comme les cartes de tarot, l'astrologie ou encore l'analyse des 4 piliers du destin. Et dans le cadre du festival de musique du chambre Seoul Spring dont nous vous avons parlé la semaine dernière, un concert se tiendra le 17 mai dans un lieu bien particulier, la résidence de l'ancien président sud-coréen Yoon Bo-son qui a rédigé Le Pays de 1960 à 1962. Cette résidence située dans le quartier de Bukchon à Séoul est une maison traditionnelle coréenne appelée Hanok, construite en 1870 sous la dynastie Joseon. Elle est composée composée de 99 pièces. Elle est toujours habitée par les membres de la famille de l'ex-président défunt, mais ouvre ses portes exceptionnellement au public pour le festival, une tradition qui remonte à ses débuts en 2006. Le programme du concert sera composé essentiellement d'œuvres des époques classiques et romantiques, entre autres le premier mouvement du trio pour piano, flûte et violoncelle en ré majeur de Haydn, le troisième mouvement du trio avec piano en si bémol majeur de Rubinstein et le quatrième mouvement du quatuor pour piano et cordes en mi bémol majeur de Dvorak. Voilà, cette édition de Bon Plan de Sortie est terminée. Nous vous rappelons qu'en raison de l'épidémie, il est recommandé de bien vérifier si les événements auxquels vous souhaitez vous rendre ont toujours lieu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous donne rendez-vous jeudi prochain.
C'est la fin de notre émission Séoul au jour le jour du jeudi. C'était Franck Atlani au micro, Yi Jian à la rédaction, avec Ho Ha-young à la réalisation. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une très belle journée.